Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission de Récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste. Heureux de vous inviter à redécouvrir la Bible, mais d'une façon inhabituelle et, j'espère, intéressante. La question d'aujourd'hui. Savez-vous ce qui s'est déroulé après le déluge et l'Arche de Noé? Non? Bien, aujourd'hui, je vous propose un récit des plus insolites. Vous allez voir, c'est quand même assez spécial. Sans trop vous révéler la trame de l'histoire qu'on va lire tout à l'heure, je vous dis que Noé va se planter une vigne et on verra les conséquences de son abus d'alcool. En plus, ce texte biblique était le principal argument pour justifier l'esclavagisme et le racisme envers les Noirs à une certaine époque. J'espère que ces quelques phrases suscitent votre curiosité autant que ça m'a fasciné de travailler sur ce récit-là. Si vous pensez que la Bible, c'est pas intéressant, bien restez à l'écoute, je vous promets que je vais tout mettre en œuvre pour vous prouver le contraire. Mais avant ça, on va voir quelques réactions d'auditeurs de la semaine passée. Alors, à chaque début d'émission, nous allons prendre le temps de répondre à vos interrogations ou de lire vos commentaires que vous nous envoyez. Suite à la première émission, je veux remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de m'écrire ou d'appeler ici à la station pour nous transmettre leurs félicitations et leurs commentaires. Une première personne m'a dit qu'elle a juste eu le temps d'attraper la fin de l'émission et elle aimerait ça avoir un très bref résumé de ce qu'on a vu. Alors, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Puis en même temps, ça va réactiver ce qu'on a vu la semaine passée. Adam et Ève, vous les connaissez, ont eu deux enfants, Caïn et Abel. Caïn a tué Abel, ça on le sait. Mais suite à son geste, ce qui arrive, c'est qu'il a été renvoyé par Dieu à l'est vers le pays de Nod. Et là, il a rencontré sa femme et a eu des enfants avec elle. La question qu'on avait, c'est « Mais d'où vient cette femme de Caïn? » Le texte de la Bible nous en dit pas davantage. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne semble pas faire partie des descendants d'Adam et Ève. Son origine ne nous est pas racontée, on se demande, elle vient d'où ça? Et c'est un blanc, un trou dans le texte. Puis, à la fin de l'émission, on est resté avec notre question. Dans le fond, on ne le sait pas plus. Mais je crois qu'on a appris un peu mieux ce qu'est et ce que n'est pas la Bible à travers ce trou, cette question-là. Et ça nous empêche, je crois, de faire des interprétations fondamentalistes ou trop rapides. Dans les courriels reçus, il y a aussi Julie qui me demande quel est le parcours qui m'a amené à m'intéresser à la Bible. Alors, je vais prendre une petite minute pour vous raconter mon histoire, comment ça se fait que je suis rendu bibliste, puis c'est quelque chose qui m'intéresse. Lorsque j'étais petit ou adolescent, j'allais toujours à la messe pour chanter, entre autres avec les petits chanteurs du Mont-Royal à l'oratoire Saint-Joseph, et j'ai entendu des centaines de passages bibliques commentés, des fois de façon intéressante, d'autres fois un petit peu moins, mais bon, c'était là, ça faisait partie de ce que j'avais en moi. Quand j'ai eu autour de 17-18 ans, je suis allé à quelque chose qui s'appelle les Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ, à Paris en 97. Là-bas, c'était une espèce de grande célébration avec presque 1 million de jeunes qui étaient rassemblés autour du pape. Et en revenant de cette grande fête, j'étais inscrit à l'université en biochimie. J'ai fait une journée de cours en biochimie et j'ai vu que c'était pas ça ma passion. Mon côté intellectuel voulait comprendre c'était quoi cette foi qui se développait en moi, puis comprendre un peu la foi qui animait tout ce monde qui était au GMJ. Je suis donc inscrit en théologie à l'Université de Montréal et j'ai commencé à faire des cours. Au début, je vous avoue que j'allais là pour trouver des réponses à mes questions. Puis je pensais trouver vraiment les réponses de la foi, puis au contraire, à ma grande surprise, j'ai trouvé des questions à mes questions. Et je vous dis, c'est fascinant parce qu'on suit une question, on travaille dessus et, oups, on en trouve 3-4 autres. Et ça nous permet de cheminer et d'avancer dans notre foi puis de l'approfondir. Et suite à ce bac en théologie, j'ai décidé de m'inscrire à la maîtrise en études bibliques. C'est là que j'ai vraiment découvert la Bible comme objet de recherche. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que la Bible, c'est tout simplement le fondement de notre foi. Si tu veux connaître Jésus-Christ, Il n'y a aucun autre endroit que la Bible pour le faire. Alors, je me suis mis à lire la Bible et à l'étudier. Et je pense que comme chrétien, c'est notre devoir d'essayer de mieux comprendre notre foi. Alors bon, avec ce diplôme de la maîtrise en poche, je commençais à faire de la radio ici à Radio Ville-Marie. Ça fait même depuis 99, donc 11 ans que j'ai commencé à faire de la radio ici à Radio Ville-Marie. Après ça, sur un site web, j'ai collaboré au www.interbible.org. D'ailleurs, je suis encore responsable de la rédaction de ce site-là. Alors, j'ai fait de l'éducation à la Bible par ce site. Et récemment, j'ai commencé à écrire pour Novalis quelques ouvrages. Si ça vous intéresse, je vous en donne les titres. 25 questions sur la Bible Ancien Testament et 25 questions sur la Bible Nouveau Testament, qui est sorti l'année passée chez Novalis. Et enfin, il y a le dernier ouvrage qui vient tout juste de sortir sur le projet qui est élaboré dans cette série d'émissions aussi, là, « Mais d'où vient la femme de Caïn, les récits insolites de la Bible » qui vient de sortir chez Novalis et Mediapol. Alors, voilà mon parcours biblique. La Bible, pour moi, c'est une passion, c'est un objet de recherche aussi. Merci à Julie pour votre question. Comme Julie, n'hésitez pas à nous écrire, puisque, comme vous le voyez, on va toujours prendre ce petit moment pour prendre vos commentaires, vos questions. N'hésitez pas. Vous pouvez vous servir des façons habituelles de nous rejoindre à Radio Ville-Marie, entre autres notre courriel auditoire@radiovm.com. Bon, cela dit, qu'a fait Noé après le déluge et qu'est-ce qui est arrivé après sa consommation abusive d'alcool? On y vient dans quelques secondes. Noé, de l'ivrognerie à l'esclavage. Là, on va regarder un texte que moi, je trouve très, très intéressant. Si vous avez votre Bible en main, c'est Genèse, chapitre 9, les versets 18 à 27. Une petite brève introduction avant d'aller au texte. L'histoire de l'Arche de Noé, bon, c'est une des plus connues de la Bible. On en parle souvent à nos enfants parce que c'est très, très facile à illustrer avec tous les animaux. C'est très intéressant. Mais juste cette histoire de l'Arche de Noé a déjà plusieurs éléments insolites. D'abord, il y a les dimensions énormes de l'arche. Il y a aussi la motivation de Dieu. Comment ça se fait qu'il est rendu à détruire sa propre création? Mais, bon, sont assez connus ces éléments-là. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aller après le déluge, voir un texte qui est un peu moins connu, mais tout aussi intéressant. Alors, je vous propose d'écouter la lecture de ce texte qui se situe tout juste après le récit du déluge. Je vous rappelle, c'est Genèse chapitre 9, versets 18 à 27. On écoute ça.
Sem, Cam et Japhet étaient les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Cam, c'est le père de Canaan. Ce furent les trois fils de Noé. C'est à partir d'eux que toute la terre fut peuplée. Noé fut le premier agriculteur. Il planta une vigne et il en but le vin, s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses deux frères au dehors. Sem et Japhet prirent le manteau de Noé, qu'ils placèrent sur leurs épaules à tous deux, et marchant en reculant, ils couvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé, ayant cuvé son vin, sut ce qu'avait fait son plus jeune fils, il s'écria « Maudit soit Canaan! Qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. » Puis il dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan en soit le serviteur. Que Dieu séduise Japhet, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. »
Alors, on a un texte assez particulier. On va essayer de regarder ça ensemble pour mieux le comprendre, parce que c'est quand même assez dense. Vous avez compris, il y a Noé, il y a ses trois fils, Et il y a quelque chose, une situation qui se passe, on n'est pas trop sûr. Ils parlent de découvrir la nudité de leur père suite au fait qu'il était ivre-mort. On va y venir, on va essayer de comprendre c'est quoi ça. Bon, d'abord, on peut mieux connaître Noé à travers ce texte. Avec l'histoire du déluge, on savait qu'il était un bon constructeur, même peut-être un navigateur de bateaux compétent. Mais ici, on voit qu'il est rendu agriculteur. Il cultive la vigne, en récolte le vin. Puis c'est à partir de là que les problèmes commencent. Apparemment, il ne sait pas boire modérément, ou en tout cas, il se retrouve complètement saoul. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Si oui, est-ce que vous avez déjà fait des choses que vous avez regrettées le lendemain? Ça semble peut-être être le cas pour Noé. En tout cas, ça arrive à tout le monde, mais là, c'est pas n'importe qui, là. Noé, c'est celui-là même qui, quelques versets avant, il parlait avec Dieu, faisait alliance avec lui. Le texte dit qu'il est le seul juste. Et dans le fond, Dieu a tué toutes les autres personnes humaines, sauf lui et sa famille. Et regardez-le, il est ivre, mort et nu. Qu'est-ce qui se passe? Bon, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? La cause de la malédiction de Cam, le texte nous dit que cet enfant Noé a vu la nudité de son père. Ça, c'est une expression qui est assez particulière. Pour nous, bon, on voit ça de façon graphique, bon, il a vu que son père était nu, mais peut-être que c'est plus que ça. Dans la Bible, cette expression-là a un sens beaucoup plus précis qu'on le pense. Je vous montre comment qu'on peut dire ça. Le livre du Lévitique, c'est quelques livres plus tard dans la Bible, c'est un livre qui raconte toutes sortes de lois juives. Bon, dans ce livre-là, il y a un chapitre 18, qui parle beaucoup, beaucoup de sexualité et les interdits sexuels là-dedans. Et dans ce chapitre-là, on emploie tout le temps cette expression-là pour désigner des relations sexuelles incestueuses. Par exemple, Lévitique, chapitre 18, verset 6, « Nul d'entre vous ne s'approchera de quelqu'un de sa parenté pour en découvrir la nudité. » Il y a un commandement plus précis au verset suivant, « Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni celle de ta mère. » Ça, c'est le verset 7 du chapitre 18 du Lévitique. Alors, on voit bien que cette expression, ne pas découvrir la nudité de, c'est une façon, comme un euphémisme pour désigner une relation sexuelle. D'ailleurs, dans le chapitre du Lévitique, c'est très intéressant à lire, Dieu va interdire à son peuple toutes sortes de pratiques qui étaient, semble-t-il, acceptées dans les peuples voisins en Égypte, en Canaan, les relations sexuelles avec le père, la mère, les sœurs, demi-sœurs, petits-enfants, tantes, belles-filles, etc., sont proscrits. D'ailleurs, les relations homosexuelles et la bestialité aussi. C'est un chapitre très intéressant, chapitre 18 du Lévitique, vous irez voir ça dans vos temps libres. Mais à chaque fois, ce qui est important pour notre discussion d'aujourd'hui, c'est que l'expression utilisée, c'est toujours « tu ne découvriras pas la nudité de ». Or, dans le texte qu'on vient de lire tout à l'heure, c'est justement ça que Cam a fait à son père. Il a découvert sa nudité. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça implique qu'il a juste regardé son père Noé dormir sous et nu? Ou est-ce que cette interprétation qui nous provient du livre du Lévitique nous dit qu'il y aurait eu une relation sexuelle incestueuse avec lui? Est-ce que Noé aurait été violé par son propre fils alors qu'il était complètement ivre? C'est assez étrange. Puisque justement, Dieu voulait justement faire disparaître le mal de la terre par le déluge quelques versets plus tôt. Pourtant, ça semble on semble voir que la violence, le mal, restent et font partie de l'être humain depuis sa création, puis même persistent après ce déluge. Bon, ça reste une hypothèse, c'est pas très très clair dans le texte, cet acte homosexuel, mais il y a quelques éléments qui nous disent qu'on n'est pas les seuls à penser que c'est cette façon de l'interpréter. Entre autres, il y a eu des traductions grecques de la Bible, parce que bon, ces passages-là ont été écrits d'abord en hébreu. Les premières traductions en grec d'Aquila, de Théodotion et de Symmaque ont traduit le terme qu'on dit en français, là, il a vu la nudité de son père, le verbe « voir », au lieu de le traduire en grec par « gymnosine », ce qui aurait été normal pour le juste « voir » normalement, ils l'ont traduit par « hachemozoun », un mot qui désigne souvent les relations homosexuelles. Alors bon, ça nous laisse entendre que peut-être que c'est ça. Il y a d'autres façons d'interpréter, bien entendu. Dans la tradition juive, j'ai trouvé une interprétation où on verrait Cam qui aurait castré son père Noé. Alors ça, c'est une interprétation qu'on voit entre autres dans beaucoup de Midrashim. Ça, c'est des textes qui sont compilés en Israël. Et aussi, ça nous est transmis par Théophile d'Antioche qui nous parle de cette façon de voir-là aussi. Mais moi, je suis moins convaincu par ça, parce qu'il n'y a aucun élément biblique. Le texte ne nous donne aucune indication qu'il y aurait eu une castration. Tout ce qu'on a, c'est une omission. La plupart des autres patriarches, on va dire qu'il va enfanter tel enfant après. Mais après Sem, Cam et Japhet, on n'a pas cette indication que Noé enfanta d'autres fils et filles. Alors que les autres patriarches bibliques, on a cette cette affirmation-là. Donc, bon, en résumé, on a exposé qu'il y a, dans le fond, trois façons qu'on pourrait prendre pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Un, il aurait tout simplement vu son père ivre et nu. Deux, peut-être qu'il y aurait eu un acte de viol incestueux. Ou trois, la castration. Bon, peu importe ce que vous décidez de prendre comme interprétation, la question c'est... une autre question qu'on peut suivre, c'est Cam ou Canaan? Avez-vous remarqué dans le texte qu'on a lu il y a déjà quelques minutes, c'est Cam qui fait le geste, puis quand Noé vient pour maudire quelqu'un, il maudit pas Cam qui a fait le geste, il maudit l'enfant de Cam, qui s'appelle Canaan. Pourquoi est-ce que c'est Cam qui est le coupable, mais c'est pas lui qui est maudit, c'est son fils Canaan? Pourquoi? Une autre question. Cette question-là, on n'est pas les premiers à se la poser. Déjà au 1er siècle, il y a un historien juif qui s'appelait Flavius Joseph, qui travaillait pour les Romains puis écrivait beaucoup sur l'histoire des Juifs. Il souligne, lui, dans ce récit-là, quand il le commente, que Dieu n'a pas maudit directement Cam, même si c'est lui qui avait fait le geste, parce que Dieu avait fait une alliance avec Noé et Cam était son fils. Alors, il y avait donc un respect qui était dû à ce fils de Noé. Alors, c'est plutôt la descendance de Cam qui va subir la malédiction divine. D'ailleurs, on retrouve ça à beaucoup d'endroits dans la Bible. Souvent, c'est les répercussions d'une faute rejaillissent sur les descendants. On voit ça dans plusieurs textes bibliques et des fois, ça va sur plusieurs générations. Mais la raison la plus vraisemblable de ce transfert de malédiction nous provient de recherches bibliques plus modernes où on voit que, dans le fond, ce que nous, on a dans un texte, un récit, viendrait de deux traditions différentes qui seraient au sujet d'un même récit puis qu'on a amalgamé ensemble. Puis l'une des sources serait centrée sur le geste de Cam, alors que l'autre, la principale importance serait donnée à la malédiction de Canaan et qu'on aurait mis ça ensemble. Et c'est pour ça qu'on a cette question où on voit que c'est un petit peu flou entre le geste de Canaan et la malédiction qui suit sur son fils qui s'appelle Canaan. Bon, pour y voir plus clair, je vous propose une chose. On va aller regarder la visée du récit. Qu'est-ce qui essaie de nous dire ce texte-là? Et moi, je pense que c'est assez clair. La conclusion nous donne la réponse. La conclusion du récit porte sur la malédiction de Canaan, qui deviendra le serviteur de ses frères, et ensuite on apprend la bénédiction de Sem, le frère de Cam. Savez-vous c'est qui ces personnages-là? Dans la Bible, Sem y est présenté comme l'ancêtre des peuples sémitiques, et en particulier du peuple hébreu. Alors, c'est ça. Canaan, lui, au contraire, va être l'ancêtre des adversaires des Hébreux, le peuple de la terre de Canaan. On peut donc voir que dans ce récit-là, on pourrait viser à rabaisser les peuples cananéens en parlant de leur aïeul, en disant ben il y a eu des mœurs sexuelles bizarres et le reste de ses descendants aussi en auront probablement. Et alors qu'on pourrait mettre en valeur Sem, celui qui va être l'ancêtre des Hébreux, alors lui, au contraire, va avoir la bénédiction de Dieu. D'ailleurs, plusieurs endroits dans la Bible répètent aux Hébreux de ne pas faire comme ce qu'on fait dans le pays de Canaan, de ne pas suivre leurs lois et surtout de ne pas suivre leurs pratiques sexuelles. Donc, en général, la malédiction de Cam et la bénédiction de Sem pourraient plutôt viser, au lieu de viser ces personnages-là, viser les peuples à l'époque où ça s'écrit ça. Et ça pourrait donner courage et force à Israël dans son combat contre ses adversaires, parce que les Babyloniens en particulier, qui étaient considérés dans la lignée de Cam, mais avait réduit en esclavage les Hébreux. Au 6e siècle, il était en exil à Babylone, et en racontant cette histoire-là, peut-être qu'il se moquait un peu des Cananéens à leur insu, en disant que leur ancêtre, lui, était supposé d'être au service de Sem, l'ancêtre des Hébreux. Alors maintenant, même s'il vivait le contraire, il pouvait se dire que, dans l'ordre normal des choses, c'est le contraire qui devrait arriver. C'est l'ancêtre des Babyloniens et eux qui devaient être à leur place. Alors, je crois que c'est là qu'on voit pourquoi on retrouve ce récit dans la Bible. On va s'arrêter ici pour l'instant. On va prendre une petite pause, réfléchir à tout ça. Et on va revenir en essayant de comprendre comment ça se fait que c'est devenu un récit qui a marqué toute la justification de l'esclavage des Noirs. Je vous donne juste un petit indice. On va affirmer que, traditionnellement, que les peuples noirs vont être de la lignée de Cam, donc descendants de celui qui a eu cette malédiction d'esclavage. Alors, on y vient tout de suite après un peu de musique. Vous êtes à l'écoute des récits insolites de la Bible avec Sébastien Dorn. Pour résumer notre parcours, nous regardons le récit qui suit le déluge, où on voit Noé, Sou, dont Canaan, Cam a découvert la nudité. Cam, c'est le père de Canaan. Une expression qui laisse entendre, on se disait tout à l'heure, peut-être une relation sexuelle incestueuse, mais on n'était pas sûr, il y avait quand même quelques doutes face à ça. Mais devant tout ça, Noé va maudire le fils de Cam qui avait fait ce geste-là, qui s'appelle Canaan, et affirme qu'il va être l'esclave de ses frères. Bon, maintenant on va regarder l'interprétation raciste de ce texte-là au cours des siècles. Cette malédiction de Cam et de Canaan a servi à justifier l'esclavage des Noirs. Voici l'histoire. Au Moyen Âge, déjà les Arabes possédaient beaucoup d'esclaves noirs. Ça commençait à cette époque-là. Même s'il n'y a aucun texte dans le Coran qui traite de cette malédiction, le récit était pourtant connu des théologiens musulmans qui connaissaient la Bible et qui en ont fait un des fondements de l'asservissement des Noirs. Il y avait certainement un problème à cette interprétation. Selon la Bible, les peuples africains sont descendants de Cam, oui, mais par son fils Cush et non par Canaan. Mais en tout cas, ça a l'air les théologiens de l'époque ont fait un petit raccrochage rapide et ont contourné cet obstacle-là en mettant l'accent surtout sur Cam qui avait commis la faute. Un exemple de cette interprétation musulmane se retrouve dans les contes de Mille et une nuits. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. On retrouve à l'intérieur de ça toutes sortes de contes, dont un où il y a une dispute entre une concubine noire et une concubine blanche. La blanche va raconter l'histoire de la malédiction de Cam et affirme que Cam fut noirci pour avoir ridiculisé son père, tandis que Sem fut blanchi pour n'avoir pas fait de même. La concubine noire, quant à elle, réplique que la blancheur, elle, est associée à la lèpre et à la mort. Alors on voit que ça, on parlait de ce texte-là dans les milieux musulmans au Moyen Âge. En Europe, l'utilisation de la malédiction de Cam pour justifier l'infériorisation des peuples noirs et l'esclavage, ça va apparaître au XVIIe siècle, surtout dans les milieux protestants, entre autres en Hollande. Il y a George Horne, qui est un professeur d'histoire, qui serait le premier, en 1666, à proposer une espèce de classification des races selon le modèle de descendance de Noé et de la Genèse. Et quelques années plus tard, il y a un autre théologien de l'époque, Jean-Louis Hahnemann, qui s'appuie sur un commentaire de la Genèse de Martin Luther pour évoquer que les Éthiopiens sont devenus noirs et esclaves à cause de la malédiction de Cam. On commence à faire des liens directs à cette époque-là. C'est donc dans ce contexte de retour à une interprétation très littérale de la Bible, dans une mouvance de réforme protestante, qu'on commence à développer l'utilisation de la malédiction de Cam comme instrument pour justifier l'esclavage qu'on commençait à faire chez les chrétiens d'Occident. Puis cette interprétation-là va prendre de l'ampleur et va trouver un écho aux États-Unis, au 18e, 19e siècle, au fur et à mesure que le phénomène de la traite des Noirs va s'amplifier à cette époque et cet endroit-là. Ça va devenir un objet de débat entre les partisans de l'esclavagisme et les anti-esclavagistes. Le débat va mener jusqu'à la guerre de sécession. En 1837, par exemple, il y a un révérend américain, Theodore Weld, qui est anti-esclavagiste, qui va écrire un tract qui est largement diffusé, je vous cite une ligne, qui nous dit « La prophétie de Noé est le vadémécoum qui accompagne tout le temps les esclavagistes. Et ils ne s'aventurent jamais à l'extérieur sans elle. » Fin de la citation. Alors, on voit bien que c'est un texte qu'on utilise pour justifier l'esclavagisme de l'époque. Bon, cette trop brève histoire de l'utilisation de la malédiction de Cam pour appuyer l'esclavagisme et le racisme montre bien l'importance capitale de l'interprétation biblique. C'est fou, imaginez ça. À cause d'une mauvaise compréhension de la Bible, il y a des personnes qui ont été réduites en esclavage. On voit qu'une interprétation erronée peut donc conduire à des pratiques horribles et à même changer le cours de l'histoire. On peut penser qu'encore récemment, il y avait l'apartheid qui a été aboli en 1991 en Afrique du Sud. Alors jusqu'à tout récemment, on parlait encore en ces termes-là de ce récit. Bon, heureusement, aujourd'hui, on voit que cette interprétation ne tient pas la route. Il n'y a plus aucun historien, archéologue ou théologien qui va affirmer ça. Tout le monde dit que c'est beaucoup plus complexe, la genèse des peuples, et qu'il ne faut pas prendre ce texte-là au pied de la lettre. Et je termine cette section en vous disant une maxime de Saint-Augustin qu'on peut garder en tête comme garde-à-fou, pour éviter les mauvaises interprétations. Lui, il disait « Aime et fais ce que tu veux ». C'est sa façon d'interpréter la Bible. S'il y a une interprétation qui ne mène pas à l'amour de Dieu et à l'amour des autres, elle ne peut pas être bonne. Alors, puisque l'essentiel de la Bible se résume à aimer Dieu et son prochain comme soi-même, bien il faut que quand on interprète un texte, ça mène à cet amour-là. C'est donc une mise en garde. On ne peut plus justifier des comportements violents par la Bible. Même si cette dernière comporte bien des scènes de violence, la Bible dans son ensemble encourage la paix et l'amour. C'est déjà la fin de notre deuxième émission. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez fait quelques découvertes avec nos réflexions. Pour aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez acheter et lire le livre qui s'intitule « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » écrit par Sébastien Dorn aux éditions Novalis et Mediapol. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Comme aujourd'hui, on prend un temps au début de chaque émission pour vos réactions. Vous nous écrivez à auditoire@radiovm.com. La prochaine fois, on explore un texte tout aussi fascinant. Est-ce que vous connaissez Lot, le neveu d'Abraham? Bon, on va voir qu'est-ce qui se passe après Sodome et Gomorrhe, quand il se retrouve seul avec ses filles. Je vous promets, on va parler encore une fois de vin et de sexualité. Ne manquez pas ça. En terminant, merci à Andréane Laferrière pour sa lecture de la Bible et Alain Primo à la technique. C'était Sébastien Dorn, bibliste. À bientôt.